Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Benoît Lombard. Vous êtes le président de Maison La Place. Bonjour, Benoît Lombard.
Bonjour, Yannick.
Vous avez été aussi à la tête de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Un mot pour commencer sur la présentation de Maison La Place que vous voulez faire, notamment votre offre de family office. Est-ce que vous êtes un peu l'hypermarché de la gestion de patrimoine?
Maison La Place n'est pas l'hypermarché de la gestion de patrimoine, c'est un multi-family office. Alors, Maison La Place est intégré dans un groupe qui délivre des prestations en matière de gestion de patrimoine. Assez classiquement, c'est la gestion, bien évidemment, des capitaux et les problématiques juridiques fiscales qui sont attachées à la gestion d'un patrimoine privé. Et au sein de cette entité, La Place, il y a Maison La Place. Et Maison La Place, c'est donc un multi-family office, c'est-à-dire que c'est un, en quelque sorte, le secrétaire général de problématiques privées. Un client plus ou moins aisé, je dois vous avouer qu'il faut avoir une certaine surface financière, eh bien, souhaite déléguer totalement ou partiellement ses intérêts privés afin qu'on soit en quelque sorte le filtre entre un univers complexe, hein, juridique, fiscal, financier, et puis la gestion de son patrimoine.
Quel est le ticket d'entrée?
Ticket d'entrée, il est essentiellement attaché à la faculté que peuvent avoir les particuliers qui nous font confiance, eh bien, de nous régler sous la forme d'honoraires. Nous n'avons pas de rétrocession sur les produits financiers, non pas que j'y sois opposé, bien au contraire, mais sur les prestations qui sont de pures prestations, en quelque sorte intellectuelles, qui visent justement à satisfaire un client qui n'a pas le temps de s'occuper de ses affaires parce qu'il est chef d'entreprise ou parce qu'au contraire, justement, il n'est plus chef d'entreprise. Il a quitté, il a vendu son affaire et souhaite profiter eh bien, de son temps libre en nous déléguant justement la gestion de ses affaires privées. Donc, c'est des honoraires qui aussi entre des prestations simples, hein, parcellaires, sur une problématique donnée, peut-être de l'ordre de 5 à 10 000 euros par an, jusqu'à des montants beaucoup plus conséquents dès l'instant où on a la vocation de s'occuper de l'intégralité de cette problématique patrimoniale.
C'est-à-dire que la notion de ticket d'entrée ne signifie pas grand-chose, parce que, imaginons, vous pouvez être salarié d'une multinationale, gagner 1 million d'euros par an, mais avoir simplement votre fiche de paye déclarée comme simple salarié, ce que vous avez aux impôts, et être propriétaire d'un ou deux appartements, on a peut-être moins besoin d'une offre comme la vôtre que si vous êtes même petit chef d'entreprise ou artisan avec 300 000 euros, 400 000 euros par an et une multitude de choses à gérer.
Exactement. Donc, c'est plus une problématique de temps par rapport à des éléments complexes. On ne vient pas nous voir sur Maison La Place, hein, les différences de La Place, je pourrais en reparler si vous le souhaitez, mais on ne vient pas nous voir sur Maison La Place pour une problématique qui est simple. Hein, c'est quelqu'un qui souhaite, par exemple, organiser la transmission et la structuration d'actifs de jouissance, un actif immobilier, sa deuxième résidence secondaire ou sa troisième, qui souhaite nous déléguer une problématique philanthropique. Hein, il souhaite pouvoir eh bien, dépenser une partie de son argent eh bien, dans des actions mécéniques, dans des actions philanthropiques et souhaite trouver l'instrument, l'outil qui va lui permettre eh bien, de réaliser son vœu le plus cher, c'est-à-dire les aider aux autres.
Vous devez être assez content, finalement, les banques ont délaissé toute cette partie de clientèle au cours de ces dernières années.
Vous savez, Yannick, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans la gestion privée et 25 ans de manière indépendante. C'est quoi indépendante? C'est-à-dire que je suis inféodé à aucune espèce de banque. Nous ne proposons, de manière plus conventionnelle, sur La Place, que des solutions qu'on va chercher à l'extérieur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le meilleur à l'extérieur. Alors, on façonne des solutions à l'aide d'outils qui sont des outils de gestion traditionnels, mais que les banques n'adressent plus à leur clientèle privée, bah parce qu'elles n'ont pas réussi à délivrer les prestations de conseil extrêmement qualitatives que l'on doit délivrer à des clients exigeants. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui travaille au sein du groupe. Hein, je rappelle que à La Place, sur La Place, dans La Place, on est plus de 200 conseillers. On a tous des Master 2, des Bac plus 5, des multi-Master 2, pour des plus vieux comme moi, des DESS. Et cette qualification, ce travail, eh bien, il ne sait plus être rémunéré par les banques à la juste proportion des besoins des clients. Puis il y a un deuxième point qui est important, c'est que nous avons une permanence des moyens. Ça fait 25 ans que je travaille avec mes plus anciens collaborateurs. On est toujours là. On est là pour la génération de quelqu'un qui aujourd'hui aurait peut-être 70, 75 ans. Mais quand je l'ai connu, il avait 50 ans. Et puis sa famille s'est étoffée, s'est grandie. Donc on connaît, j'allais dire, le patriarche. Et puis la deuxième génération et la troisième génération. On est là, on est présent, on est permanent.
Quelles sont les demandes qui reviennent le plus souvent, les problématiques? Est-ce que la multiplication des normes, des décrets, la loi de finances qui change chaque année, des niches qui arrivent, d'autres qui disparaissent, d'autres qui sont rabotées, ça rend le sujet vraiment très, très complexe?
Mais c'est très complexe puisque nous sommes dans un environnement qui change tous les ans. Alors, vous connaissez la règle, hein, les lois fiscales, elles changent tous les ans. Loi de finances, on la connaîtra à la fin d'année. Je ne vais pas étonner vos auditeurs si je leur dis qu'ils ne connaîtront qu'à la fin d'année la sauce fiscale à laquelle ils seront mangés. Donc, une instabilité qu'on a bien connue, alors qui est un peu plus stable depuis quelques années, mais enfin, on se souvient d'élever des pigeons et puis tout, les autres sortes de volatiles dans les années Hollande. Aujourd'hui, c'est un peu plus stable, mais néanmoins, il y a quand même plein de climats d'incertitude dans un monde complexe. Et ce monde est complexe au niveau fiscal, il est complexe au niveau juridique. Hein. Aujourd'hui, on a 3,5 millions de nos compatriotes qui sont des Français de l'étranger. Qu'est-ce qui se passe lorsque un des enfants va s'installer en Australie, tiens, prenons cet exemple-là, et puis est amené recevoir un héritage de France? Il y a de la complexité juridico-fiscale. Il faut pouvoir être capable de répondre aux aspirations de cette population qui a besoin de conseils. Puis tout simplement, en France, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je place mon argent? Qu'est-ce que je fais dans ce monde complètement dingue où on se rend compte que le fonds euro, on pourra peut-être en reparler, n'est plus protecteur de l'épargne aujourd'hui, avec des taux de rentabilité inférieurs à 2%, tandis qu'on a une inflation qui est trois fois supérieure et qu'on a des taux sur le marché monétaire qui sont à 3%. Rappelons-le, hein, on aura vraisemblablement l'occasion d'en reparler.
Justement, comment intervenez-vous? Quelles sont vos limites? Quelles sont, sur le plan de la sécurité du Conseil, jusqu'où vous ne pouvez pas aller?
Alors, la première des choses, c'est d'abord, lorsqu'on a affaire à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, privé, comme ceux que nous pouvons trouver au sein de la place, c'est d'abord de vérifier les accréditations qu'il a. On est multi-réglementé. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous étonner. Le métier de conseil en gestion de patrimoine n'existe pas en tant que tel. Il ne repose que sur la somme d'accréditations complémentaires que l'on doit avoir. On doit être CIF, conseil en investissement financier. Là, c'est régulé par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. On doit être, bien évidemment, courtier en assurance vie. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, c'est le véhicule préféré des Français. Mmh. C'est évidemment un havre de paix fiscale. Donc, on doit être immatriculé en tant que tel auprès de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France. Puis, on doit parler de crédit aussi. On doit être en intermédiaire en opération de banque. Et puis, on peut parler d'immobilier. Parce que l'immobilier, évidemment, c'est une...
Donc, la carte d'agent immobilier aussi.
La carte T. Et puis, le tout doit se faire dans un environnement qui fait qu'on a le bagage juridique nécessaire pour pouvoir satisfaire des conseils complexes. Et là, il faut avoir ce qu'on appelle la CJA. On n'a pas le droit de communiquer dessus. C'est la compétence juridique appropriée. En quelque sorte, il faut tous avoir une licence en droit minimum.
Voilà.
Alors, compliqué tout ça. Hein. Donc, multicouche, ça, c'est la France. Hein. Donc.
La situation économique aujourd'hui apparaît comme bien complexe et bien inquiétante pour beaucoup de nos compatriotes. Faut-il toujours avoir confiance dans le système bancaire?
Indépendamment du système bancaire, on a un monde, l'année dernière, qui a subi un double crack en 2022. Alors, tout le monde se souvient de la forte correction qu'on a pu connaître sur le CAC 40. Hein. Mais le CAC 40, c'était que -9,5 dividendes réinvestis. On a eu surtout un indice des actions international qui est à -20, et puis les valeurs technologiques, les valeurs de la tech, les valeurs prometteuses, -33 le Nasdaq, et je ne parle pas des petites valeurs de la tech française. Donc, un grand crack, mais surtout, indépendamment du crack sur le marché des actions, on a connu un crack obligataire. Et c'est ça qui amène aujourd'hui le climat d'incertitude que l'on a connu. SVB, qu'on a le scandale bancaire américain, naît de ce crack obligataire. Ben, c'est quoi un crack obligataire? Ben, c'est que les emprunts d'État qui rémunéraient au 1er janvier 2022 zéro, hein, on était à 0,08 sur l'OAT 10 ans, le 26 janvier 2023, soit un peu plus d'un an après, on était à 3,23. Mais quand vous achetez une obligation d'État à 100 euros qui vous donnait du zéro de rentabilité, en réalité vous achetez un coffre-fort. Ça, c'était le 1er janvier 2022. Qui va l'acheter un peu plus d'un an après quand ça rémunère à plus de 3 et encore aujourd'hui on est à 2,80? Qui? Eh bien, très simplement, quelqu'un qui va l'acheter avec une décote. Et cette décote, c'est 15%, 18%, ça dépend des marchés, mais c'est ce qu'on a connu l'année dernière. Et donc, les obligations qui étaient détenues par des banques et qui représentaient le dépôt à long terme, hein. Je rappelle que le métier d'une banque, il est très simple. On transforme des dépôts en court terme en emplois à long terme. Mais si jamais cet emploi, on l'a mis sur le marché, on l'a affecté, on l'a placé sur des emprunts d'État, certes moins bien noté la France depuis un peu moins d'un mois, mais on pourra en parler, mais relativement sûr, et qu'on a besoin de faire face à des liquidités parce qu'on a une défiance, parce qu'on a besoin de cash, parce que on doit faire face aussi à des soubresauts économiques et que on vend à perte, eh bien il s'ensuit ce qu'on a connu chez SVB, ce dont on a eu peur aussi pour quand même le Crédit Suisse, une des plus belles et vieilles institutions bancaires helvétiques. Mmh. Eh bien, on s'est posé la question de savoir si ça pouvait exister en France.
Ouais.
Et là, est-ce que ça existe? Vous me posez la question, mon cher Yannick?
Bah oui, mais je vous laisse, oui. Oui, parce que non, les Suisses ont quand même joué dans des hedge funds, ont été mettre l'argent un peu de l'autre côté, pas simplement pour au service de l'économie suisse. C'est ce qui a expliqué le scandale. Hein,
il y a une succession d'éléments qui ont amené, évidemment, bouleversement qu'on a pu connaître et au rachat de Crédit Suisse par UBS, qui a fait une bonne opération.
En France, il est difficile de répondre à votre question parce qu'en général, quand il y a une catastrophe, on le sait après. Hein.
Alors, il y a d'abord une solidarité. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système, la sécurité du système bancaire français et européen est quand même, assez paradoxalement, parce qu'on pense que la Suisse est quand même le plus beau pays où l'on puisse placer de l'argent, bien plus sécurisé. Je vais vous donner un exemple très simple. Le Crédit Suisse, quand il n'allait pas bien, vous savez, soit vous êtes actionnaire de la société, soit vous êtes prêteur de la société, vous lui prêtez de l'argent, vous émettez des obligations. Et puis, il y a des rentes seniorité, hein. Donc, le premier risque, c'est l'actionnaire. C'est celui qui touche le plus lorsqu'il y a des dividendes, qui peuvent être sympathiques. Puis, le créancier obligataire, il vient en deuxième rang. Eh bien, le créancier obligataire, il a été spolié pour partie avec des obligations à T1 un peu complexes, mais de la dette subordonnée financière qui a été mise à zéro, tandis que lui, l'actionnaire, il a été remboursé, certes, qu'à hauteur de 3 milliards de valorisation globale de Crédit Suisse. Peu, certes, mais il a été remboursé pour partie. Le créancier obligataire, il a été rincé. En France, ça ne pourrait pas exister, parce que là, du coup, on a la protection, pour une fois l'Europe nous aide beaucoup, de la construction européenne et du système de stabilité financière qui a été mis en place suite à la crise de 2008.
Au moins, c'est Mario Draghi qui avait fait ça.
Mario Draghi. Eh bien, ce système de protection permet de donner l'assurance du rang de prêteur ou d'actionnaire, hein, d'avoir la certitude de respecter cette hiérarchie. Ça, c'est au moins un point qui est important. L'autre point qui est important aussi, c'est la prudence dans les placements qui sont réalisés par les établissements financiers. On ne pourrait pas faire les établissements financiers de premier rang. Je rappelle quand même qu'en France, on a BNP Paribas qui est la première des entités bancaires européennes. On a Société Générale qui est aussi un établissement de premier rang. On a Natixis. Bref, on a des banques de premier rang qui, elles, ont des règles de diversification de leur stock qui permettent d'éviter le scandale qu'on a pu connaître en Suisse.
En Suisse, c'est quand même un élément parce qu'on a eu le Crédit Lyonnais, la Métro Goldwyn-Mayer, et puis voilà, on a fait joujou avec tout ça. Donc on a mis des règles.
Et on en a tiré des enseignements.
On a tiré des enseignements. Alors Benoît Lombard, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cet entretien passionnant. On se retrouve avec Benoît Lombard qui est mon invité. Benoît Lombard, vous êtes l'ancien président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine et vous êtes le président de Maison Laplace. Alors, l'agence Fitch, quand elle a dégradé la note de la France, elle a dit que c'était pas la réforme des retraites qui l'inquiétait le plus, c'était, je le résume, c'est pas ce qu'elle a écrit, mais c'était exactement ce que ça voulait dire, la mentalité française qui l'inquiétait le plus. Est-ce que ça fait partie des préoccupations que vous entendez de la part de vos clients qui vous disent, peut-être, on veut bien placer notre argent, on vous fait confiance, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions de le sécuriser hors de France? Parce que la mentalité française nous inquiète.
L'agence Fitch, d'abord, s'il a dégradé la note financière de la France, je rappelle qu'elle l'a passé sur un rang de notation qui est passé de double A, que l'on était, c'est-à-dire à une qualité de crédit très élevée, à une qualité de crédit qui est un tout petit peu moins, qui est AA-. AA-, c'est la notation de Fitch, tandis qu'on était double A. C'est la notation, par exemple, de la Belgique, du Royaume-Uni, de l'Estonie. Triple A, bien sûr, hein, vous savez quel est le pays qui a la qualité de crédit la plus élevée qui soit en Europe, bien évidemment, c'est l'Allemagne. Si elle a dégradé la notation financière, la note financière de la France, c'est parce qu'on a la persistance d'un déficit budgétaire élevé. Donc, il y a une lenteur à l'assainissement budgétaire en France après, notamment, la pandémie de Covid-19.
Vous dites, Benoît Lombard, qu'il y a une lenteur. Pour qu'il y ait une lenteur, faut déjà que la voiture ait démarré. Elle semble même pas avoir démarré. Donc, il n'y a pas de lenteur. Elle est encore au stationnement.
Elle est au stationnement. Alors, Fitch est un peu plus prudent que vous, mon cher Yannick. Mais, effectivement, on n'arrive pas à résorber un déficit public endémique. Je rappelle que le déficit budgétaire en France, c'est aujourd'hui à peu près 5% du PIB. Hein. Le PIB, c'est 3 100 milliards. peu près. La notation, le déficit budgétaire qu'on peut avoir sur l'ensemble des pays qui sont notés AA, donc tel que l'on était auparavant, c'était 2,3. Deux fois moins. Était-il normal que la France ait une notation double A, tandis qu'on avait un déficit budgétaire, qu'on a un déficit budgétaire deux fois supérieur à ceux qui bénéficient de cette note?
Ah bah ça, on le dit depuis quelques années. Ça, c'est vrai.
Donc
c'est
pas
normal. On était déjà des mauvais élèves. On avait quand même
un niveau de dette publique élevé et qui s'aggrave. Je suis d'accord, puisque on dit que la dette publique représente à peu près fin 2022 111% du PIB. On prévoit pour 2027, hein, pas pour la fin de cette année, dans 4 ans. 114%. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave et ça ne descend pas. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'on n'arrive pas à résorber ce déficit public qui repose pas sur les prélèvements obligatoires, qui repose pas sur les ponctions que nous avons tous les jours, l'impôt sur revenu, la TVA. Je rappelle qu'en France, on a le record des prélèvements obligatoires en Europe, à plus là encore de 47% du PIB. On a, alors on se bat avec le Danemark, hein, donc, mais parfois on gagne, on est devant, parfois deuxième. On se passerait bien d'être dans toujours, non pas le pied aux têtes, mais dans les deux niveaux. Je rappelle que le prélèvement obligatoire en Europe, c'est 41% hein, à peu près. Hein, donc en France, 47,5%. En Irlande, c'est 21%. Ça donne un peu.
Oui.
Et donc, je voudrais juste terminer, Yannick. Et donc, si on conjugue à la fois un pas de réforme qui sont capables, non pas de plus taxer, mais de mieux utiliser l'argent. Parce qu'en réalité, c'est là où est le problème en France. C'est pas le fait qu'on puisse pas lever l'impôt, on le lève très bien. Ce n'est pas le fait que l'on essaye d'assainir la défense, on n'y arrive pas. C'est le fait qu'on emploie mal l'argent. Parce que si on conjugue à la fois un PIB important, mais des prélèvements obligatoires les plus élevés, et en même temps un endettement public qui persiste, un niveau de dette publique qui est très élevé, et qu'on conjugue ça à l'augmentation des taux d'intérêt dont je parlais tout à l'heure, parce que je rappelle que l'État français, il n'emprunte plus à zéro, il emprunte à plus, enfin à 2,87 aujourd'hui, j'ai vérifié ce matin sur les marchés financiers. Ça veut dire que, comment on fait pour résoudre la quadrature du cercle? L'endettement public, on était à zéro, hein, ça nous coûtait à peu près, la dette publique, 20 milliards. On estime que fin 2027, hein, quand je disais qu'on serait à 114%, ça va nous coûter 60 milliards. 60 milliards par an pour rembourser la dette qui a été émise. Et je ne parle pas de l'amortissement du capital, puisque bien sûr, elle n'existe pas. La dette, elle roule, elle tourne. Il n'y a pas d'endettement perpétuel. Mais on émet des nouvelles obligations pour rembourser les anciennes. On n'en est pas loin. Hein. Donc, comment allons-nous faire pour résoudre ce problème? C'est ce qu'a sanctionné Fitch en disant, il est temps
exactement,
aujourd'hui
voilà,
de pouvoir changer, modifier, parce que cette dette publique sera plus soutenable à un moment donné.
Vous avez malicieusement, sans doute, évité de répondre à ma question. Est-ce que certains de vos clients vous disent « Trouvez-nous des solutions pour être moins dépendants de la France ?»
La première chose qu'on fait, c'est que déjà, on explique ce que je viens de vous expliquer. Bon, ensuite, on essaie de se dire où est-ce qu'est mon risque aujourd'hui ? Est-ce que mon risque, il n'est pas de détenir directement ou indirectement de la dette émise par l'État, puisqu'on a vu que les taux ont monté, pour faire avoir 0 ou 3% ? 3%. On pourrait acheter de la dette à 3%. Aujourd'hui, on a un stock encapsulé dans l'assurance.
Ça dépend de la solvabilité.
Ça dépend de l'émetteur.
Eh oui, voilà, je préfère 0,5 si c'est un bel émetteur qui va toujours me rembourser. Et 3%, si c'est un canard boiteux, bon, c'est pas le cas de la France. Hein,
c'est pas le cas de la France. Hein,
je le dis bien. Voilà.
Donc, attention quand même. Hein, donc, on n'est pas non plus dans les plus bas du classement. Mais,
parce qu'on peut vous proposer des trucs à 30% et ce sera vraiment le canard boiteux.
Non, mais prenons un émetteur similaire à la France. 3%, enfin 2,87, 0% il y en a un an et demi. Le seul problème, c'est que ça fait depuis 2008, hein, depuis cette crise, que les taux, ils ont fait que descendre. On a mis 9 ans à passer de 3% à zéro. On se retrouve à zéro suite à la crise du Covid. On a mis 9 mois pour passer de 0 à 3%. Ça va trop vite. Et donc là, on peut s'interroger sur le fait, est-ce que ça sera soutenable, notamment par les grands paquebots de l'épargne qui lissent la performance au fil de l'eau, dont par exemple les fonds en euros des compagnies d'assurance. Je pense qu'il est temps de sortir des fonds en euros des compagnies d'assurance vie pour aller chercher du rentabilité ailleurs. Je vais juste vous donner un exemple très très simple. Aujourd'hui, une SICAV monétaire au jour le jour, c'est-à-dire, c'est quoi une SICAV monétaire? C'est d'argent qui est placé sur le marché interbancaire. Et donc là, on a un risque qui est mutualisé puisque c'est toutes les plus grandes banques qui s'échangent de l'argent au gré de leurs besoins sur ce marché. Aujourd'hui, on a 3% de rentabilité annualisée. versus moins de 2 que l'on aura sur le fonds en euros des contrats d'assurance vie. Qu'est-ce que vaut mieux faire? Est-ce que je préfère prêter à l'ensemble des banques ou détenir des vieilles obligations à la rentabilité?
Oui, mais les Français ont toujours confiance en l'assurance vie. On a l'impression que c'est un oreiller bien confortable.
Eh bien, que ces Français puissent basculer, que nos compatriotes puissent basculer une partie de leur épargne du fonds en euros vers, s'ils ne veulent pas de risque, une sécurité monétaire. Et puis, s'ils veulent prendre un peu de risque, parce que je rappelle que l'épargne française, l'épargne Covid, les fameux 200 milliards, un peu plus de 200 milliards, je crois qu'on était 291 milliards, donc exactement d'épargne Covid, elles ont été placées où? Bah, dans, des éléments, de l'épargne très liquide. Très liquide. On a 65% de produits de taux en France. On n'a pas assez d'argent dans les fonds propres des entreprises. On n'a pas assez d'argent dans nos entreprises.
Donc, dans la
qui
bourse.
En ont besoin.
Donc, dans la bourse.
Pas nécessairement. Ça peut être aussi, le financement, alors ce qu'on appelle le private equity. Donc, voilà ce qu'on dit à nos clients.
Le family, voilà,
allons investir dans les sociétés non cotées. Allons investir.
Aux sociétés cotées, oui. Lorsque j'ai dit bourse, je pense que vous m'avez compris, hein. Ça veut dire détenir des actions des entreprises.
Bien sûr.
Pour moi, là, même si c'est pas sur Euronext, la bourse, ça commence si j'aide mon fils à ouvrir un restaurant. Hein, je prends quelques actions. Voilà, ça
exactement. Investissons dans le propre de nos entreprises parce qu'en réalité, si jamais demain le monde explose, l'entreprise qui sera à côté et qui produira toujours des biens ou des services, vous la connaissez, elle est à face de chez vous. Ça peut être l'entreprise de votre copain, l'entreprise
de votre fils, l'entreprise de votre cousin. Vous avez des grandes entreprises françaises qui existent depuis Louis XIV et bien avant. Hein.
Exactement. Et ne vaut-il pas mieux investir dans quelque chose de solide? Sans faire de publicité, est-ce qu'il vaut mieux détenir un titre L'Oréal ou est-ce qu'il vaut mieux détenir un emprunt de l'État portugais ou grec?
À titre L'Oréal, quand on voit l'histoire de cette belle entreprise qui a commencé presque dans une chambre de bonne et qui est devenue ce que c'est, on ne peut avoir confiance que dans l'avenir.
Exactement. Donc oui, donc ça c'est des questions qu'on se pose, c'est des questions qu'on met devant nos clients, mais la première des choses qu'on fait, c'est qu'on donne le panorama. On explique le contexte dans lequel s'inscrit la gestion d'épargne. Puis après, on passe bien évidemment aux deuxième étape, où est-ce que j'investis? Hein, mais ça ne repose
oui, mais ça c'est la responsabilité individuelle de chacun, le sens de la réflexion de chacun. On peut avoir envie d'investir dans une entreprise dans laquelle on est client. On peut être séduit par une entreprise et devenir aussi client de cette entreprise. Voilà, ça sont des choses très personnelles. C'est comme une histoire d'amour, ça.
Exactement. Eh bien, redonnons aux Français la faculté d'avoir plus d'histoires d'amour avec leur propre épargne.
Joli mot de la fin. Merci. Benoît Lombard.
À bientôt.
Vous êtes le président de Maison Laplace. Merci, Benoît Lombard. Merci.